Monsieur Arthur Bertrand Péry, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando.
Vous avez promis à la population que les travaux du champ solaire de Sakai doivent se terminer depuis 2 mois. Qu'est-ce qui explique ce retard, monsieur?
C'est terminé, monsieur Armando. Bientôt, vous serez convié pour l'inauguration ou la mise en service, donc c'est très bientôt.
Nous sommes passés de 2 semaines à 2 mois.
Je vous promets que d'ici quelques jours, une semaine maximum, vous aurez la date exacte.
Une semaine, ça veut dire que jeudi prochain?
Jeudi prochain, vous aurez la date exacte.
Êtes-vous vraiment rassuré avant de tenir ces propos? Car beaucoup de vos promesses, monsieur, ne sont pas réalisées au moment opportun ou au moment indiqué.
Non, monsieur Armando, lesquelles? Je fais des promesses qui sont toujours réalisées. Je vous dis que d'ici une semaine, ça caille sera mise en service. Mais ce que je tiens d'abord à vous dire, vous savez, moi je suis politique, je ne suis pas technicien, je ne suis pas opérationnel. Je tiens des réunions de suivi de l'exécution des projets. J'ai les retours de mes collaborateurs. Je communique par rapport au rapport des collaborateurs. Et nous sommes des humains. Seul Dieu ne se trompe pas. On peut se tromper. Il peut y arriver à ce que mes collaborateurs me remontent une information et compte tenu des réalités, il peut y avoir des ajustements. Donc, ce n'est pas dire que je fais des promesses et que je ne tiens pas, monsieur Armando.
Et donc, vous vous trompez alors?
Mais je dis, il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Vous, monsieur Armando, rassurez-moi que vous ne vous êtes jamais trompé.
Oui, trompé une fois, deux fois, comme disent les latins. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Ça veut dire que plusieurs fois, vous vous trompez. Ne pensez-vous pas que la population va remettre en cause vos promesses prochaines?
Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous allons toujours pécher. Mais je vous rassure que j'ai toujours fait des promesses et je l'ai toujours réalisé. Mais nous sommes des humains. Il peut y arriver en sorte qu'il y a des raisons techniques. L'électricité, c'est trop technique. Donc, il peut y avoir des problèmes techniques qui peuvent amener un retard de 2 ou 3 jours. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne tient pas à ses promesses, M. Armand.
Le site du champ solaire de Danzy aussi peine à être opérationnel comme il se doit, alors que l'espoir de la population commence à se décimer. Quel est le vrai problème à ce niveau, M. le ministre?
Ce sont les réalités de la vie, M. Armando. D'abord, il y a le Covid qui était arrivé, qui a bloqué tout. Il n'y avait pas de fret maritime, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion. Donc, les prévisions de ravitaillement du chantier, les prévisions d'arrivée du matériel sur le chantier, ces prévisions avaient été perturbées. Ensuite, le problème de carburant qui se pose aujourd'hui. Et vous savez, c'est une installation industrielle. Ça consomme énormément de carburant. Et la question de carburant est venue perturber encore. C'est des planifications que nous faisons. Mais je peux vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des conteneurs, des panneaux solaires qui sont déjà arrivés. Les travaux préliminaires sont déjà réalisés. Et bientôt, on va commencer à faire des forages pour commencer à planter le matériel sur lequel seront reposés les panneaux.
Monsieur le ministre, il y avait eu un accident de circulation la fois dernière où on a vu les matériaux du champ solaire de Danzy étaient par terre. Et est-ce que cela a été récupéré?
J'ai fait le déplacement, j'étais parti voir le conteneur. Mais c'est du matériel endommagé. Lorsque c'est sur le terrain, c'est endommagé. Et en matière de gestion des panneaux, lorsqu'il y a des traces sur les panneaux, on ne peut plus les utiliser. Mais je vous rassure que c'est dans le circuit normal de convoyage. Donc, ces dépenses ou bien le remplacement des panneaux, ces remplacements sont pris en compte par la compagnie d'assurance.
Parlons un peu du carburant. Est-ce que le pays a des difficultés aujourd'hui pour s'approvisionner en carburant, monsieur le ministre?
Mais ce n'est pas seulement le pays, monsieur Armando. C'est le monde entier qui est perturbé par la question de distribution de carburant. Ce n'est pas seulement la République centrafricaine. Il faut comprendre que cette question, c'est une question mondiale. La perturbation est mondiale. La semaine dernière, j'étais à Douala, au Forum de l'énergie. Mon collègue de Kinshasa, pays producteur de pétrole qui devrait venir, n'a pas pu effectuer les déplacements parce qu'il y a perturbation accentuée au niveau de son pays. Nous nous sommes retrouvés avec le ministre de Guinée équatoriale, le ministre du Tchad, le ministre du Cameroun, le ministre du Gabon. Nous avons abordé ces questions. Tous ces pays sont des pays producteurs de pétrole. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Mais la crise sévit gravement dans ces pays pourtant producteurs de pétrole. Donc ce n'est pas une question simplement de la République centrafricaine.
Et pourtant, certains centrafricains qui s'approvisionnent au Cameroun, au Tchad, d'une manière clandestine, ont de carburant et ravitaillent certaines villes comme Boire, Berberati, Yaloké, Bouzoum, etc. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces carburants et que l'État, qui est garant de tout, n'a pas pu se faire?
Vous savez qu'il y a des questions stratégiques, questions géostratégiques, questions géopolitiques sur cette question de carburant. Il y a du carburant quelquefois qui arrive, qu'on dit ces carburants sont sous embargo. Un État légal ne peut pas avoir accès à ces carburants-là.
Et c'est pour qui?
Eh bien, ça rentre dans le circuit informel. C'est du carburant venu de l'Ukraine, c'est du carburant venu dans des zones en conflit. C'est tracé. Un État qui respecte les droits de l'homme, un État qui respecte les conventions avec les autres États, ne peut pas avoir accès à ces produits-là. Ça rentre dans le circuit informel. Des fois, je vous dis que c'est du carburant qui n'est pas du carburant de bonne qualité. Parce qu'il y a des caractéristiques qu'il faut respecter. Lorsque le carburant arrive, ça va d'abord au niveau de la direction générale de SOCASP. On fait des prélèvements. On fait des tests pour voir si ça respecte les normes de carburant utilisées en République centrafricaine pour ne pas endommager les véhicules de nos compatriotes. Les gens qui vont s'approvisionner comme ça, à la sauvette partout, c'est à leur risque et péril.
Mais question de la stratégie géopolitique, conflit, est-ce que vous voulez accuser ici la diplomatie centrafricaine ou bien le positionnement de la République centrafricaine vis-à-vis de certaines puissances comme la Russie?
Non, je précise ce que je dis. Quand je dis géostratégique, géopolitique et autres, c'est par rapport à cette guerre qui se passe au niveau de l'Europe. Vous savez, les gens se positionnent. La guerre qui se déroule là-bas, il y a des questions d'embargo, il y a des questions d'intérêt. Ce n'est pas nous qui gérons l'embargo, mais chaque grande puissance se positionne. Décide de contrôler telle flotte maritime, décide de contrôler tel ravitaillement au niveau de la mer. C'est des questions géo, c'est de ça que je veux parler. Et nous, République centrafricaine, on ne contrôle pas la mer, on ne contrôle pas les flottes maritimes, on n'a pas de puissance au niveau des mers, on ne peut rien faire, on ne peut que subir.
Mais cette affaire a quand même duré et cela vous dépasse. Le gouvernement est-il à la hauteur de ses responsabilités face à la demande constante de la population sur ce point, monsieur?
Dans tous les pays en Afrique aujourd'hui, il y a cette perturbation.
Mais en Centrafrique, c'est quand même aigu.
À l'instant où vous me posez cette question, regardez ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Vous allez voir, il y a des queues. Et regardez ce qui se passe au niveau de l'Afrique australe. Vous allez voir comment les pays producteurs sont perturbés. Non, au niveau de la République centrafricaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire des rationnements. Ça veut dire qu'on a commencé par limiter des sorties, interdire des bidons, interdire des fûts, demander à tout le monde de se mettre à queue. Ça veut dire que le gouvernement respecte la population de telle manière à ce qu'il y ait une distribution équitable.
Et justement, à ce sujet, les députés vous ont sommé à y trouver une solution. Ce ultimatum court presque à son terme. Que faites-vous en ce moment pour échapper à la motion de censure de l'Assemblée nationale?
Non, nous avons expliqué ce que nous sommes en train de développer comme stratégie pour continuer à ravitailler le pays et continuer à trouver d'autres voies et d'autres sources pour ravitailler le pays. Donc, les députés sont rassurés, les députés travaillent en collaboration avec l'exécutif.
Avec un ultimatum des mois qui coule déjà presque à la fin.
Non, on ne peut pas donner l'ultimatum à partir du mois. La solution ne dépend pas du gouvernement centrafricain. Nous travaillons en collaboration avec les autres pays pour trouver des solutions.
Arthur Bertrand Piré, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Armando.